Vous saurez qu'en commençant des études, puis en devenant ce qu'on appelle expert, c'est-à-dire en connaissant des choses que les autres ne connaissent pas, on est toujours un petit peu plus expert qu'une autre personne, un petit peu moins expert qu'une autre encore. Mais votre confiance dans l'autre personne, dans votre prochain, peut s'altérer. Genre, il ou elle était assis à côté de moi sur le banc de l'école, il ou elle n'en touchait pas une. Qu'est-ce que je vais lui demander au conseil maintenant? C'était quand même pas si compliqué, je vais m'occuper de ça moi-même. Donc je m'occupe de ma santé moi-même. Si je suis médecin, je n'ai pas trop confiance en un autre médecin, que c'est un peu plus que moi d'ailleurs. D'après les mêmes cours, etc., etc.
Donc il peut y avoir des positions qui sont éventuellement une sorte de défiance contre au savoir, la connaissance, la relation à l'autre, qui vont approfondir un petit peu plus cette vulnérabilité, ce risque que le professionnel de santé va avoir dans cette résistance au stress, au travail, etc. D'où, faisant le constat avec des études épidémiologiques régulières que les étudiants étaient déprimés, il y a un certain nombre d'années, on avait fait une enquête, encore et encore, dans plein d'autres unifs.
Je crois qu'il y avait des difficultés à différents niveaux, il y avait un certain pourcentage avec des idées suicides, que le service social universitaire ne voyait vraiment pas limité, personne parlait. De par son organisation, et puis de par une difficulté éventuellement des gens de faire appel, puisqu'ils doivent d'abord s'identifier, apprendre à s'identifier comme étant personne vulnérable, et dire, bon, ben, il faut peut-être prendre ça en charge. C'est pas forcément une mince affaire.
En faisant le constat de cela, j'arrive à la conclusion qu'il fallait arrêter de faire des études d'idéologie en permanence, mais proposer quelque chose de concret à mettre dans le programme. Alors, quand on met des heures de travail pratique dans un programme, on ne choisit pas de faire ce qu'on veut.
C'est décidé par filière. Ça, j'en ai en français. Comme c'est décidé par filière, il faut compter le nombre de crédits, le nombre d'heures, de ceci, de cela, le nombre de la charge, ça va être pour les étudiants, réparti par quadrimestre, réparti par année, réparti sur le programme, etc. Donc tout ça se discute pour pouvoir former un tout cohérent qui permet à l'étudiant d'être formé. Et donc ce travail finalement a été fait pour la filière qui est la filière médecine.
Est-ce que les pharmaciens en bénéficieraient?
Très certainement. Est-ce que c'est organisé pour les pharmaciens? Ben non. Pas encore. Donc ça nécessiterait d'autres alliages.
Toujours est-il que c'est le travail pratique obligatoire
pour les médecins, contrairement au cours, vaut pour 5 points sur la cote globale de 20 points. L'un ou les deux autres filières auront un examen qui vaudra sur la totalité des points. Alors, dans le passé, j'ai mis un peu plus de questions pour les pharmaciens sur le médical par rapport aux médecins, mais j'en suis plus dans une perspective de parcimonie, pas trop de questions. Il y avait 10 questions pour le médecin et 15 questions plus sérieuses pour les pharmaciens sur le médical. Ont-ils bien réussi? La majorité, oui. Y a-t-il des obsessions? Pas rien à voir. Pourquoi même étudier?
Est-ce que vous avez des questions concernant le cours, son déroulé et
question distancielle? Personne. N'hésitez jamais à intervenir, poser des questions, je n'hésiterai pas à vous solliciter.
Donc, le livre de référence, vous l'avez vu, j'imagine qu'il s'achète en livres usagés d'une année à l'autre. Vous avez, tenant à cela, toute une série de questions d'entraînement pour lesquelles j'ai mis les réponses sur votre campus. Il y a des cours sur votre campus. Je suis la seule personne autorisée à enregistrer les cours. Je vous le mets sur votre campus aussi. Vous n'avez pas de droit ni patrimonial ni moraux sur les enregistrements des cours. Ça reste une œuvre à rentrer. Comme ça, c'est non consacré. Mais ici. Pour ceux qui préfèrent l'irlandais, il y a des anglophones de naissance ici? Personne? Voilà, pour ceux qui veulent lire l'anglais, il y a cette édition-ci que vous pouvez vous procurer également chez Libé. Et les techniques d'études, alors ça c'est important, les techniques d'études que vous verrez dans le chapitre consacré à l'apprentissage, à la mémorisation, à l'attention, on parle de ces techniques d'études. Est-ce que vous avez tous des techniques pour étudier n'importe quoi? Levez un peu la main. Est-ce que quand vous avez un truc à faire, vous dites stratégie, tac, 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 il faut autant de temps, c'est bon, si c'est pas commencé, vous saurez quand vous aurez perdu. Alors, vous faites ça, hein, ouais. C'est ça qu'il faut faire, hein. Votre métier, c'est d'étudier, donc il faut apprendre les ficelles, hein, de pouvoir utiliser les questions là. Non, c'est bien, il faut faire ça. Bon, pour ceux qui n'ont pas encore de technique, je vous propose la méthode SQL 3R. Je vous suggère de répartir vos heures d'études. Pourquoi? Parce que l'apprentissage longitudinal vaut mieux que l'apprentissage massé. Vous savez ce que c'est un apprentissage massé? Quand on dit tout en masse, genre locus. Hein, dépend de votre aptitude à retenir une chose après l'échéance, mais aussi la volonté de pouvoir l'utiliser à long terme. Et puis si vous participez au cours, je vous conseille d'écouter activement durant les cours. Alors activement, c'est-à-dire que c'est en vous posant des questions, en entendant vos clés, en faisant une mind map, en faisant des associations d'idées.
Recopier tout ce que je dis, ça a un peu d'intérêt. Ah, vous avez des supports audio, des liens, des manuels, des questions, etc. Alors si vous êtes kinesthésique visuel, grattez. Donc il faut d'abord déterminer bien sûr quelles sont vos modalités d'apprentissage. Et ça j'imagine qu'à votre stade, vous avez déterminé la manière avec laquelle vous emmagasinez le mieux la matière. Sans quoi il y a aux gens, mais ce sera intéressant pour vous le faire, pour ne pas faire d'autant non plus.
Écoutez activement durant les cours, c'est la théorie de la charge perceptive.
Alors, c'est une certaine chercheuse, Nie Lavi, qui a proposé cette théorie de la charge perceptive. Ça consiste en quoi?
Si vous êtes totalement attentif à quelque chose, alors vous allez moins percevoir les stimuli autour de vous. Genre, si quelqu'un regarde la télévision et qu'on l'appelle,
tatam,
je ne vous entends pas, parce qu'il regarde la télévision. Alors, en présent, genre, si monsieur est en train de cuisiner, et certains regardent la télévision en lumière, et il dit,
regarde le sang,
et elle ne perçoit pas comme un tel. Par exemple, on prend un stéréotype, merci à tous. Tout ça pour dire, si vous êtes attentif, vous arrivez non seulement à éliminer une série de sensations, un verbe est agréable, l'odeur du voisin, la chair est trop dure, le temps qui passe, le bruit, etc., pour pouvoir vous concentrer activement. Sinon, c'est du temps que vous passez finalement à vous convaincre vous-même que c'est important d'être quelque part sans vraiment en être à propos. Ça, c'est un choix que vous posez aussi activement en tant que citoyen, en tant que citoyen. Être là à rien faire. C'est un peu un problème aussi. Mais méthode SQL 3R. Survoler le chapitre et son contenu. S. Question, transformant question. Chaque question. Lisez le chapitre, essayez de répondre à des questions, citez vos réponses, notamment par écrit, révisez le chapitre en répondant à des questions, et puis rédigez en prenant des notes en vue de poser une question portant sur le cours ou lors des cours. Si vous me posez des questions par email, je les reprends au cours suivant. J'y réponds devant tout le monde. Voilà. Je ne commence pas de relation épistolaire avec l'un ou l'une d'entre vous. Je ne m'en sortirai pas. Mais n'hésitez pas à poser des questions au cours, à l'intercours ou par écrit. Et bien sûr, je reviendrai dessus. S'il n'y a pas de méthode, donc celle-ci me semble bonne. Pourquoi la psychologie ? J'ai un cadre audio à mettre aussi. Voilà, si ça marche, un cadre audio. Qu'est-ce qui nous distingue de l'animal ? Le langage ? Certaines pas, l'instinct explorateur, certaines pas aussi, la prise de conscience de la vie psychique intérieure, je pense. L'intuition créatrice et la possibilité de faire des hypothèses, ça, aussi la liberté. On envisage toujours l'être humain dans un modèle biopsychosocial, c'est le modèle de Engel, M. Engel qui propose ce modèle-là, biopsychosocial, avec la pensée sous-jacente que le biologique, le psychique et le social ont des poids équivalents. C'est aussi important d'être logé correctement que d'être en bonne santé, physique, que d'avoir un psychisme équilibré, pour le dire simplement. Ça, c'est le fameux cri de Verluche, un dieu qui était vendu à des prix exorbitants, ce qu'il avait dit. Et qui vous parle d'une angoisse fondamentale que vous ressentez par tout être humain. Une angoisse, une déstructuration, un changement de perception du monde qu'on appelle une déréalisation, et ce changement de perception qu'on peut ressentir en soi est une dépersonnalisation. Dépersonnalisation, donc une déréalisation. Or, les inondations, après ce confinement, ont conduit aussi à se poser une série de questions. D'un coup, il est devenu important de considérer que ces événements pouvaient être traumatisants, que si on était isolé trop longtemps, c'était pas si bien que ça, que les événements pouvaient avoir un impact physique et psychique important, particulièrement chez les jeunes, pour qui des millions d'euros sont bloqués pour pouvoir leur venir en aide. Donc, un masque ou un froid, tous ces comme ça. Ouais, qui est-ce qui tousse ?
J'avais le crâne.
Ah, voilà. Il n'y a personne qui aurait l'aider, là. Incroyable. Ouais, ça se passe comme ça en rue aussi. Les gens se font aussi, et tout le monde regarde. Ceci, ouais. Ça serait super embêtant, hein, pour vous. Hein. Ouais. Et puis, c'est très suspect, là, hein. C'est beaucoup plus suspect de tousser que de péter, là. Donc, choisir, c'est peut-être. Alors, c'est quoi ça? Alors, trêve des intrigues. Prendre donc en compte ce trauma qui peut être présent, cette résilience, cette capacité de dépasser, cela, non? C'est que lutte pour la survie qui peut être là et ces difficultés qui sont présentes. Alors, parole importante de Rabelais. Vous avez déjà vu Rabelais un petit peu ? Gargantua, etc. Vous avez des cours en réalité ? Non, on ne va pas parler de Rabelais ? Si, hein. Gargantua, Portagueulel, vous connaissez les uns par cœur. Science sans conscience, c'est que ruine de l'âme. Appliquer de la science et même scientifiser la relation, le contenu psychique de l'autre, sans réfléchir à ce qu'on est en train de faire, de penser, de dire, c'est, selon la formule de Rabelais, le ruine de l'âme. Pensez-y. La psychologie, le fait psychique, va pouvoir permettre de remettre aussi de la conscience dans cette technicité, cette opérationnalisation à laquelle vous êtes formé. Alors l'acte médical, s'il est assurément, on va parler qu'un acte scientifique, c'est toujours de découvrir un acte social, c'est toujours un fait psychologique. On revient à notre fameux modèle biopsychosocial. Encore, pour le médecin, emporté par un désir d'impartialité objective et scientifique, le malade tend souvent à disparaître derrière la maladie. Qui serait-on, un malade ou une maladie? Il s'agit par une analyse rigoureuse et impersonnelle, quasi vétérinaire, de déceler l'atteinte d'un organe, de lésion précisée, la cause, une thérapeutique obligatoire en découlant automatiquement. Question amène une réponse, j'ai mal là, il y a un truc, il faut prendre quelque chose, et la boucle est bouclée, et on verra en psychologie générale, et puis plus particulièrement en psychologie médicale, qu'il y a souvent une demande de l'attente, une demande cachée, donc derrière cette demande d'examen, de soins, cette déclaration de douleur, un problème, un dysfonctionnement. Alors pourquoi étudier la psychologie? Pour augmenter vos chances de succès académique, professionnel, personnel. Donc, ça c'est vendeur. Pour approfondir votre compréhension de vous-même et des autres. Voilà, c'est bien raison. Pour élargir votre culture générale et devenir un citoyen, une citoyenne du monde. Et ça doit traverser toutes vos études, améliorer votre esprit critique. Et quand on y pense, ce qu'on dit, il va être aussi au fondement du questionnement, du diagnostic, de la connaissance à travers, de l'information recueillie dans une anamnèse, et va permettre de faire des hypothèses diagnostiques, des diagnostics différentiels, en faisant justement votre esprit. Donc c'est une démarche extrêmement importante qui réussit dans toutes vos études et dans votre vie professionnelle. Ça vous fait différemment pour le jeune homme. Pas tout, c'est trop. Ça force les abdos, le ventre, pas tellement trop. Il faut limiter aussi. Alors la psychologie, c'est une méthode scientifique et une pensée. On va étudier les comportements et les processus mentaux. Alors bien sûr, quand vous voyez ce genre de choses, il y a des gens qui étudient ce que c'est pas faire, on va acheter, ce sont des comportements. Des données qui peuvent être intéressantes, bien sûr, psychologie de conscience. Vous verrez qu'il y a la psychologie de bon tout, pour les questions, consommation, entreprise, trucs, pour tout. La pensée critique, c'est un processus qui a pour but d'évaluer objectivement, de comparer, d'analyser et de synthétiser l'information. Bref, être étudiant, c'est déjà un pas vers la pensée critique. Les avantages, c'est de penser plus indépendamment, de prendre de meilleures décisions, de résoudre des problèmes plus facilement. Alors, il y a toute une série de pseudo-psychologie qui donnent une apparence de science, mais qui sont fausses. Alors, ça inclut en cours de la lecture dans les pensées, les médiums, l'astrologie, la graphologie, etc. J'espère que je ne détruis pas un mythe par une cartomancienne chez vous. Alors, Alors, une histoire de la psychologie, à la fois, nous allons donc envisager cette histoire, mais sans la comprendre. Mais passer du structuralisme, qui vise à identifier la structure de la vie mentale en identifiant certains éléments de l'expérience consciente. Et la première méthode d'expérimentation, c'était l'introspection. L'introspection, c'est regarder en soi pour essayer de trouver différentes connaissances sur soi. Alors, l'introspection, c'est un petit peu problématique quand on veut avoir accès aux données et les comparer et faire des moyens. Parce que c'est ça, ça nécessite le rapport par l'individu qui s'introspecte de l'objet même de son introspection. Ce n'est pas observable extérieurement. On ne sait pas voir dans la tête de l'autre. On peut dire, si on fait une erreur cérébrale dans des cases, on peut voir l'activité cérébrale dans la tête de l'autre. Fonctionnelle, quand on lui pose différentes questions, quand on fait différentes tâches. Mais est-ce que c'est parce qu'on voit une activité cérébrale ou un reflet indirect de cette activité cérébrale que on sait ce que la personne pense ou ce qu'elle va faire? Pas forcément. Le fonctionnalisme, lui, vise à identifier les différentes fonctions de l'expérience. Comment nous aider à nous adapter à notre environnement? Pourquoi on peut avoir de l'anxiété, de la peur, de la colère? À quoi ça nous sert? Quelles sont la fonction? Quelles sont les fonctions des émotions? On verra ça en cours de la théorie de M. Plutchik. Le modèle psychanalytique qui va focaliser sur les processus inconscients et les conflits non résolus qui vont influencer nos comportements actuels. Chapitre 1, la psychologie et ses méthodes de recherche. Vous voulez faire une pause dans les heures ou pas? Or, psychologie, logie, c'est la science de, et psycho, le psychisme. Il y a plein de mots qui sont auto-explicatifs pour ceux qui aiment bien la sémiologie. Et dites en quête de Rodi, qui a encore fait du latin ici. Voilà. Et qui a fait du grec? Voilà. Très peu. Alors, ceci dit, moi, alors, j'ai fait un peu de latin, puis j'ai fait du latin et grec, puis j'ai fait du grec. Et mon prof de grec, je me dis, le latin, c'est pour les fermiers, et le grec, c'est pour les érudits. C'était son avis, que je ne partage pas forcément. Mais il y avait un fort a priori, qui était peut-être lié au fait qu'il faisait un voyage en Grèce avec des étudiants. Je me dis, je pense pas qu'il y a un intérêt sur le sang. Mais en tout cas, et réfléchir un petit peu au sens des mots vous épargnera quelques définitions à apprendre par cœur. Alors, la psychologie a différentes fonctions. À la fois celle de décrire, celle d'expliquer, celle de prédire ou celle de modifier. Alors, la description, elle peut être description d'événements observables, il a marché, un pas, deux pas, il a poussé, trois fois de suite, de manière répétitive, d'impatience. Ou de phénomènes mentaux, alors phénomènes mentaux qui vont être rapportés par un individu. Par exemple, un rapport de rêve, cette nuit j'ai rêvé que j'étais sur une barque avec une grande dame, madame un coup pagué, je suis tombé d'un poisson qui m'a sauvé. N'importe quoi. Ce qui manifeste bien que pendant
le rêve est un processus de désinhibition par une activation de votre cortex frontal. Vous pouvez rêver à des choses qui n'ont ni queue ni tête, semble-t-il. La description porte donc à la fois sur ses contenus inconscients rapportés et colligés. Il y a des études sur le rêve, il y a des rapports de rêve. On peut, d'une certaine manière, influencer certains contenus de rêve. On peut augmenter la quantité de rêves dont on se souvient, etc. Et puis, les observations doivent se tenir à ce qui est vraiment juste présent devant ses yeux. Et la description est souvent affaire compliquée, car bien souvent, l'observateur ne peut s'empêcher de sauter aux conclusions, d'interpréter. Jean a fait trois pas pour se diriger vers la porte où il a poussé trois fois, c'est qu'il a le Covid. Alors, comment c'est trompé? L'interprétation, sauter aux conclusions. Et donc c'est très important, bien sûr, quand on est dans une démarche scientifique, de laisser la description au stade d'une description sans sauter aux conclusions, sans interpréter outre mesure ce qui est observé, le phénomène qui se passe. C'est de le faire de temps en temps, vous verrez que c'est pas simple de voir les choses telles qu'elles le sont, sans cette courge d'interprétation. Alors l'explication, après avoir décrit quelque chose, ça va être de pouvoir expliquer pourquoi est-ce que, quand on s'étrangle, on touche, par exemple. Ouais. C'est marrant, ça. Pour expulser ce qui est l'objet de l'étranglement. Faut-il s'inquiéter de quelqu'un qui tousse? Si il tousse, c'est qu'il respire. S'il ne tousse plus, par contre, ne t'inquiète pas. S'il a commencé à tousser. L'explication, donc. On verra des exemples au fur et à mesure, par exemple sur la violence télévisuelle, qui est un exemple assez classique. Bon, la prédiction, c'est de voir quels sont les facteurs qui vont concourir à la reproduction de comportements, de problèmes, ou à l'amélioration de comportements, de problèmes, d'états psychiques chez une personne. Genre, on sait que s'il y a un entraînement aux compétences émotionnelles, il va y avoir une amélioration au niveau des relations interpersonnelles, au niveau des facteurs professionnels et académiques. Les réussites académiques sont plus élevées pour les personnes qui n'ont pas régulé leurs émotions. Vous imaginez l'aspect inique que c'est. Si on a des modules de régulation des émotions dans les travaux pratiques des médecins, et pas des autres, on leur apprend à réguler leurs émotions, et c'est le point supérieur. Parce qu'il y a à réfléchir, on parle pour réfléchir maintenant, réfléchir sur beaucoup de choses. Et puis, modifier, je disais, l'intervention. On peut prédire ce qui va se passer, puis on intervient. Si on sait que ça réduit les dépenses en soins de santé de mieux réguler ses émotions, pourquoi pas donner des formations à réguler ses émotions chez certaines personnes. En bas, c'est ce qu'on fait, hein, dans certains cas. Décrire, expliquer, prédire et modifier, intervenir. Alors, il y a une différence entre la recherche dite fondamentale et la recherche appliquée. La recherche fondamentale vise à établir des connaissances théoriques, alors que la recherche appliquée, elle viserait à appliquer des connaissances sur une situation bien concrète pour pouvoir améliorer cette situation. Alors, des exemples très pratiques, l'application de psychologie, du sport, l'enseignement amélioratif, du bien,
Par exemple, avoir un volant de voiture et un moteur pour pouvoir avoir la qualité sans rôle, un bon rôle. Ça, c'est très pas. Pouvoir se repérer dans l'espace en étant que les plaques de puissance sont mises au bon endroit par rapport au bouton. Comment est-ce qu'on va surprendre des choses? Où est-ce qu'on va chercher là-bas? Et maintenant, la vue de l'esprit entre recherche fondamentale et recherche pratique est relativement minime sur certains aspects, dans la mesure où la personne qui veut contribuer à l'orientation d'un savoir théorique a une question plus globale, qui n'est pas juste la question de savoir, mais aussi de pouvoir aider à certaines problématiques. Donc, pour la frontière entre recherche appliquée et recherche fondamentale peut être un petit peu plus flou. Il ne s'agit pas juste de théorie d'un côté et de pratique de l'autre. Alors, il y a différents champs de la psychologie, comme la psychologie, la psychobiologie et les neurosciences. On aura l'occasion de voir dans le cours de neurosciences en bac 3 plus 5,15 cours partagé avec les professeurs de Becker. Différents aspects plus globaux de neurosciences. Il y a la psychologie clinique, c'est l'évaluation, le diagnostic, le traitement, l'intervention mentale, qui sont liés à un corpus théorique d'apprentissage de la psychothérapie, dite systémique, psychodynamique, comportementale et cognitive, par exemple. Et puis il existe des centaines de types de psychothérapie différents. La psychologie du counseling, donc conseil, du développement, psychologie scolaire, psychologie pédagogique, psychologie expérimentale, juridique, psychologie culturaliste, psychologie des étudiants, psychologie étudiants neurosexuels, psychologie de la santé, psychologie industrielle et organisationnelle, psychologie sociale. Oui, c'est défini, vous êtes les champs les plus importants étant la psychologie clinique, scolaire, neuropsychologie, psychologie sociale et communautaire, psychologie industrielle et des organisations, et puis l'enseignement et la recherche, qui sont les champs principaux champs de la psychologie. Alors, pourcentage. Alors, les origines des approches théoriques. Comme souvent, on commence par les penseurs d'antiquité, Platon, l'être humain naît avec des idées supérieures. C'est un linéisme des idées. Linéisme, c'est inné, et les idées sont déjà présentes chez les êtres humains qui naissent. Aristote, pour lui, la psyché est inscrite dans le corps. C'est une page blanche sur laquelle s'inscrit l'expérience. Notre psyché se construit au fur et à mesure de nos expériences. Puis la naissance de la psychologie moderne, au-delà de ses théories scientifiques, avec William Wundt, qui crée le premier laboratoire de psychologie en Allemagne en 1879. Lui, il veut appliquer des méthodes d'observation systématique des sciences naturelles à l'étude des comportements et des processus mentaux. Il dit, mais en fond, les comportements et les processus mentaux, c'est aussi important que Marx, et appliquons-là une démarche scientifique. Mesure, répéter, observation, consigner, analyse, de groupe, suivi, intervention, description, prédiction et intervention, donc encore. Avant la psychologie, c'est ce que vous avez par ailleurs, c'était la philosophie qui pose la question de l'esprit. Est-ce que la perception reflète de manière précise et fidèle la réalité? Comment une sensation est transformée en perception? Question philosophique. Ce n'est pas une manière scientifique d'étudier les problèmes, la philosophie. On en vient à la physiologie qui pose des questions similaires à propos de l'esprit, mais avec une perspective biologique, où on a prédit, observé, et la confirmation des prédictions, des interventions d'enculement, qui vont donc être cette fameuse méthode dite scientifique. Ce que l'on va apprendre repose sur des observations systématiques des événements, sur une prédiction de ce qui se passe lorsque les événements se produisent, pour pouvoir intervenir de manière. les interventions qui sont proposées sont basées sur cette démarche scientifique. William Wundt et ses étudiants ont commencé comme lui étudier les êtres humains dans un laboratoire. Et puis ils ont formé différents labos dans des universités aux États-Unis, comme vous pouvez le voir. L'expérience est donc importante. On passe à l'introspection avec Eduard Tischner, étudiant de Wundt formé à Cornell. Et puis la psychologie qui vise à comprendre les processus mentaux et dont père fondateur, comme ça, et William James, je vous invite à lire ses écrits, il a écrit plusieurs bouquins. Philosophe et psychologue formé à Harvard, qui est extrêmement intéressant. Structuralisme donc, analyse de la conscience dans ses éléments de base et comment ils interagissent. Une vision structurelle de la conscience, différents modules, différents. Entités qui interagissent avec vos modules ou entités. L'introspection, c'est donc l'auto-observation de ses propres expériences conscientes. Et puis le fonctionnalisme, il investigue la fonction ou le but de la conscience, plutôt que sa structure. Comment c'est construit? Comment ça marche? C'est pas la même chose. Wundt pour le structuralisme, James pour le fonctionnalisme. Ensuite, un autre grand mouvement, c'est le behaviorisme, la psychologie scientifique. Le behaviorisme devrait s'appuyer sur des choses observables. Or, nous avons vu que l'introspection n'était pas observable, elle était rapportée indirectement par la personne qui rapporte cette observation. Est-ce que c'est pour autant que ça n'a pas de valeur? Dans l'application d'une démarche scientifique, est-ce pour autant qu'on ne peut pas étudier l'introspection de manière scientifique? C'est encore une autre question. Mais vous comprendrez que pour pouvoir déterminer si un médicament a une quelconque supériorité sur un autre médicament, si une intervention, une attitude ou un examen a une quelconque supériorité sur un autre examen ou une attitude en particulier, et si nous avons besoin de nos collègues des sciences du médical pour avancer dans tout cela, il ne nous faut pas que de l'introspection. Je pense que c'est pareil cette fois-ci, ou c'est mieux. Il faut des observations. C'est donc la psychologie qui conduit à la science du comportement. Les processus mentaux ne peuvent être étudiés directement. Il va donc y avoir la psychologie du stimulus-réponse, dont un des grands pères fondateurs est Ivan Pavlov. Nous le verrons. Comportementalisme aussi champ qui est développé par Watson, qui croit que le comportement d'une personne est un produit de son ou de ses expériences par rapport à leur état mental interne. Alors Watson, il dit ça en 1930, pour mettre ça dans le contexte, donne-moi une douzaine de liens de santé et bien formé, et mon propre monde spécifié et amené à l'intérieur, je peux garantir de prendre n'importe qui de manière aléatoire et de le former pour devenir tout type de spécialiste, médecin, avocat, artiste, marchand chef, et oui, même mendiant et voleur. Quels que soient ses talents, penchants, tendances, les capacités, les vocations et la race de ses ancêtres. Place 1930, bien sûr, pour les termes, mais c'est vous dire comment était imaginée à ce moment-là l'action d'un stimulus versus sa réponse. En modifiant l'environnement, on allait dessiner la manière avec laquelle une personne allait réagir. Le comportementalisme. Freud, lui, avec psychanalyse, propose l'idée de l'inconscient. L'inconscient, c'est ça, c'est pas conscient. C'est les pensées, les mémoires, les désirs existent au-dessous de la conscience et exercent une influence sur nos comportements. Si on agit d'une certaine manière, si on dit certaines choses, dans ce modèle, ça ne reste qu'un modèle psychanalytique, il s'agirait de forces inconscient, de conflits inconscients qui sont à un moment donné révélés par des ratés d'un refoulement. L'inconscient se révèle donc à travers les rêves, les actes manqués, comme les lapsus. Théorie psychanalytique essaie d'expliquer la personnalité, les troubles mentaux, la motivation en termes d'inconscient agissant pour les comportements. Il a proposé cette métaphore de l'iceberg, avec à la fois l'inconscient qui prendrait une grande part, le préconscient qui serait juste à la lisière de la surface, et le conscient qui serait la partie immergée de l'iceberg. En replaçant dans la première topic, vous devez en dire, topic propose que le lieu, une carte topographique, hein. Vous connaissez, c'est un lieu, c'est topic freudien, qui n'est pas déterminé géographiquement. C'est pas le lore, un tel, telle circonvolution. C'est un lieu imaginé dans lequel il y aurait cet inconscient, ce préconscient, ce conscient. Et dans cette deuxième topic qu'il proposera, c'est le moi, le surmoi et le ça, et nous verrons ce que là sous-entend le principe sous-jacent à cela. Alors Freud avait une technique, encore 2 minutes pour que je fasse la pause, qui était celle des associations libres. Alors les associations libres, encore une fois, comme le nom l'indique, c'est des associations qui sont libres. La personne est invitée à associer librement, en étant couchée et son regard non fixé sur le visage d'une autre personne. Il y a plus de liberté, moins de relations dans ce que l'autre pourrait inspirer à l'autre personne. Et la personne peut s'exprimer de manière libre, sans venir les associations d'idées, avec l'instruction de ne pas les inhiber, de ne pas les considérer comme absurdes, comme obscènes, comme inutiles. L'idée étant que l'inconscient, les pensées inconscientes vont émerger au-dessus de l'esprit inconscient. J'ai déjà montré cet iceberg. Et donc, cette deuxième topic avec le surmoi, le moi et le ça. Et nous allons les définir juste après une pause de 5 minutes à plus. Voilà, donc nous reprenons maintenant avec cette deuxième topique freudienne. Alors, le topos veut dire le lieu, la première topique définissant un lieu entre conscient et conscient, préconscient. Le préconscient se situant entre le conscient et l'inconscient, c'est logiquement. Et cette deuxième topique présentant 3 entités, le ça, le moi et le surmoi. Proposé en 1923 par Freud, le ça, c'est vraiment le principe du plaisir, c'est la pulsionnalité à l'état brut, non réfléchi. Le principe de réalité, ça va être dans le moi, on ne fait pas ce que l'on veut, et le surmoi va se développer devant l'enfant. Identification aux parents de même sexe vers 4 ou 5 ans, disons. Une recherche de moralité, d'idéaux, c'est un juge ce qui va être bien, ce qui est mal, mettre une certaine culpabilité, une certaine fierté dans ce qui va être fait. Donc le surmoi va agir comme un censeur. Avec un C, bien sûr. Alors le ça, c'est un peu ce cheval fou qui est géré uniquement par le principe de plaisir, qui vise la satisfaction immédiate, égoïste. Je veux quelqu'un ou quelque chose, je le prends. J'ai une idée en tête, je l'agis. J'ai faim, je mange. Je veux quelque chose de sexuel, ben je consomme. Ça peut générer des émotions contradictoires. Le soi à l'état brut n'est source que de problèmes avec l'autre, avec soi-même, d'insatisfaction éventuelle, puisqu'il s'agit d'une satisfaction éventuelle, mais de confrontation très rapide à la réalité et puis à la loi. On ne fait pas ce qu'on veut. On ne prend pas ce dont on a besoin parce que ça nous passe par la tête. Hein, comme je
chez les enfants, si vous avez déjà vu des enfants, il y en a de temps en temps qui ont une idée de mordre.
Pourquoi? Parce qu'ils ont l'idée. Vous voulez le mordre?
Parce que j'avais envie de faire ça.
Voilà. Ou qu'ils font ceci, qu'ils font cela. Là, c'est selon ce modèle psychanalytique, dynamique, freudien, il s'agit vraiment donc du ça, de satisfaction. Le ça, je le prends. On lui dit non, non parce que tu es blessé, non parce que ça ne se fait pas. Et on inculque, ce faisant, la loi devant être ici comprise de manière métaphorique, c'est une règle qui nous transcende et qui nous dit nous sommes tous soumis à des choses qu'on peut faire, qu'on ne peut pas faire, on est obligé de suivre ces règles. Le moi, lui, va se développer durant la première année de vie, parce que les désirs du bébé ne sont pas toujours immédiatement satisfaits. Il ne peut pas téter quand il veut, il ne peut pas manger quand il veut, il ne peut pas attraper tout ce qu'il peut, il ne peut pas bouger, d'ailleurs il ne marche pas. Il est dépendant des autres, il est dans un état qu'on appelle de néothélie, hein, comme une larve dépendante de son environnement, et ne demandant qu'à progresser et éclore. La dépendance à l'autre est aussi majeure. Le moi est géré par le principe de réalité qui représente la raison, le bon sens. Il détermine la santé mentale de la personne par l'utilisation inconsciente de différents mécanismes de défense. Nous allons voir ensemble différents mécanismes de défense aujourd'hui. Le surmoi, donc, dit quand il s'est développé, c'est une recherche donc, de la moralité et un jugement de ce qui est bien et ce qui est pas bien. Donc, important d'imaginer ces entités-là pour essayer de comprendre, tiens, comment est-ce que ça pourrait fonctionner. Attention, ça reste un modèle de compréhension du psychisme humain, un modèle extrêmement abouti, mais ça reste un modèle et non pas la réalité. Et si vous avez un exemple de lapsus, bonjour, mon retour, je veux dire mon amour, bon, c'est un peu le gros exemple, mais ça vient de du livre. Un mot, à la place d'un autre, le mot signifiant quelque chose de plus profond, de caché. Il y a donc dans ce qui est exprimé au travers de ce lapsus une forme de conflit intérieur, de choses qu'il fallait absolument éviter et de considération de l'autre au travers de cela. Alors dans la vie de tous les jours, plusieurs jours par rapport à ma langue accrochée, je me suis trompé. On ne prend pas forcément le temps de réfléchir pourquoi on a dit ce mot-là ou on a dit un autre. Mais est-ce que les phénomènes psychiques et verbaux du lapsus verbal ou de l'acte manqué, quelque chose qu'on a fait, qu'on n'a pas fait, et qu'on aurait dû faire, qu'on n'aurait pas dû faire, est-ce qu'ils ont la même signification? Est-ce qu'ils peuvent être analysés de la même manière? Bien sûr, ils peuvent être analysés de la même manière, mais dans un certain setting, un certain environnement, on va prendre le temps de le faire. Parce qu'il y a une attention particulière pour pouvoir réfléchir sur soi, sur ces mécanismes psychiques, et d'ailleurs, en allant chez un professionnel que l'on paie pour faire ce travail. Donc, il ne faut pas commencer à faire ce qu'on appelle des interprétations sauvages, avec chacun d'entre nous, son voisin, sa voisine, son compagnon, sa compagne, ses frères et sœurs, ses parents, etc. On ne commence pas à faire ces interprétations sauvages. On l'a dit tout à l'heure, le moi détermine la santé mentale de la personne par l'utilisation inconsciente de divers mécanismes de défense. Les mécanismes de défense visent à protéger le moi contre une angoisse trop importante. Et donc, c'est des mécanismes de défense du moi. Il y en a certains qui sont extrêmement classiques, on va les prendre ensemble, ça constitue des questions faciles pour l'interrogateur. Le déplacement, par exemple, remplacer l'objet initial d'une pulsion par un objet moins menaçant. Vous faites engueuler par votre conjoint, votre conjointe, puis vous rentrez, vous voyez un chat, et vous tapez dans le chat. Ça, c'est un exemple de déplacement. Est-ce qu'on peut taper dans un chat? On ne peut pas taper dans un chat. Bien évidemment, on ne peut pas suggérer qu'un chat vous manque. C'est une boîte, peu importe. Il s'agit d'avoir déplacé des reproches que l'on a reçus, une colère que l'on a reçue exprimée par personne dans son entourage, et de la déplacer sur quelqu'un. Dure journée, beaucoup à faire, on rentre, on est fâché sur quelqu'un, on les conduit. Déplacement. Par exemple, une cliente insulte un vendeur après avoir reçu une contravention, par exemple. Donc du coup, si jamais vous faites un peu de vente, toujours se poser, tiens, que s'est-il passé dans votre journée? Ça permet parfois de désavancer des situations bien compliquées. Incompréhensibles aussi, non? Pourquoi de l'agressivité d'une personne envers une autre si on ne comprend pas la naissance de cette agressivité, ce qu'a vécu l'autre? Le déplacement. Donc, l'information réactionnelle, c'est refuser de prendre conscience de désir, de penser, de sentiments jugés inacceptables en adoptant des comportements qui leur sont contraires. C'est par exemple se montrer dominateur et vantard alors qu'on se sent inférieur ou impossible de soi. Par exemple, je vais donner une image caricaturale qui n'a rien à voir avec la réalité. Être habillé tout de cuir, avec des muscles énormes, sur une moto avec un beau tatouage, I love mama, et avoir un tout petit zizi par exemple. Ouais. Ça, ce serait une formation réactionnelle. Comportement qui est adopté. Voilà, ils en parlent d'autres. La négation, c'est se protéger d'une réalité désagréable en refusant d'en admettre l'existence. Je disais d'admettre sa dépendance à l'égard de l'alcool chez un alcoolique. Bon. Par exemple, un adolescent qui boit de façon régulière refuse d'admettre qu'il a un problème de consommation d'alcool. Bon. Sur lequel les groupes d'alcooliques anonymes commencent souvent par lutter contre ce déni en disant bonjour, je suis Bob. Je suis alcoolique, par exemple. Ils reconnaissent d'entrée de jeu qu'il y a un souci. Ça aide à lutter contre les lignes, on peut reconnaître comment ça assez gros. La projection, elle, consiste à attribuer à autrui ses pulsions inacceptables. Par exemple, ne pas s'avouer ses propres envies de relations extra-conjugales. Tant en preuve d'une jalousie exagérée à l'endroit de son compagnon ou de sa compagne. J'ai des souvenirs de quand j'étais sur le banc de l'université comme vous. Il y a toujours, alors ça c'est le hasard de la vie, c'est bien étudié en psychologie, surtout en psychologie de groupe, vous mettez des humains ensemble, il y a des choses affectives qui se passent et il y a des gens qui sortent ensemble. Que ce soit sur une croisière, dans un auditoire, dans n'importe quel endroit, dans une foire foraine, dans un concert, n'importe quoi, les gens, ils se voient, ils se trouvent, et puis ils finissent par se lancer. Et donc, tout ça pour dire qu'il y a. Je me souviens de groupes qui s'étaient formés comme ça, avec des visiblement des tensions extrêmement palpables. Et puis, il y en a qui se sont découverts et qui sont à faire. Et donc, on est dans ce genre de mécanisme de projection attribué à l'autrui, ses propres motifs ou pulsions inacceptables. Donc, toujours bien réfléchir aussi, d'où ça vient ces reproches, ce qu'on identifie à l'extérieur de soi, sans forcément être capable de voir comment on fonctionne soi-même. Alors, la rationalisation, c'est trouver des raisons socialement acceptables pour justifier des pensées ou des actions qui se font sur des motifs inacceptables. On justifie le tricher à l'examen en disant bah, tout le monde le fait. Vous savez, monsieur le professeur, moi je suis quand même pas le seul à tricher, hein. C'est jamais un bon argumentaire quand on doit passer devant un jury. Ben, c'est une forme de rationalisation. Moi, je peux toujours dire, écoutez, c'est étudiant, on fait preuve, est-ce qu'il y a de présence ou de théorie ou pas. C'est la rationalisation. Mais ça peut être de la désinvolture totale aussi. Il faudra voir qui a évalué cela et quel sera le contexte, bien sûr. Le refoulement, c'est empêcher les pensées douloureuses de l'assaut d'accéder au conscient. Oublier les agressions sexuelles subies d'un petit enfance, par exemple. Ça, c'est du refoulement. Une victime qui oublie les détails d'un accident tragique. Une personne qui est en thérapie oublie d'assister à une rencontre au moment où il devrait commencer à aborder des souvenirs désagréables. Ça, c'est du refoulement. Alors, est-ce que le refoulement est problématique? Est-ce qu'oublier les souvenirs traumatiques, est-ce que c'est problématique? Bien sûr que non, heureusement qu'on refoule les demandes pétant qu'on vit dans sa vie, heureusement qu'on refoule un peu. Mais le problème, c'est les retours du refoulement. C'est ce qui ne reste pas enfoui, bien sûr. Et si ce refoulement s'exprime avec des retours de refoulé, des difficultés, que ce soit le sommeil, des difficultés comportementales, émotionnelles, c'est un problème. C'est ça qui est problématique. Alors la régression, c'est réagir à une situation menaçante d'une manière qui correspond à un stade antérieur de développement. Se mettre en colère, ce qu'on a mis refuge de tempérer nos demandes, par exemple. Bon. Exemple ici, une adolescente se met à pleurer lorsqu'on lui interdit d'utiliser la voiture familiale. Je ne peux pas utiliser la voiture familiale. Oui, c'est un peu inapproprié. Alors, au niveau psychiatrique, ça peut se manifester de manière enfin, de extrêmement élevée. J'ai des situations comme ça où les gens se. Ils retombaient un petit enfant, ils faisaient pipi, ils faisaient caca, ils s'abandonnaient complètement dans des endroits tout à fait incroyables. Donc, régression, c'est pas juste au sens figuré. Il y a une sorte de comportement qui est immature. Une personne devient très dépendante de ses parents à la suite d'une rupture amoureuse. Et c'est pas naturel de redevenir dépendant de ses parents, je sais pas, moi, à 40 ans. C'est pas dans l'ordre des choses. Il y a une sorte de réinvestissement, qu'on va appeler une régression. Bon, ce qu'est la sublimation, c'est transformer des désirs non satisfaits, des pulsions non acceptables en activité constructive. Canaliser les désirs sexuels vers l'art, et la musique. Bon, bah, c'est partager quelque chose. Ben, un autre exemple, un homme ou une femme isolée écrit des romans d'amour. Un adolescent frustré joue au football. Il y en a qui jouent au football ici? Vous êtes frustré? Non. Oui, ça marche dans un sens, ça. Pas dans l'autre, forcément. Bien évidemment. Un homme rit de sa mauvaise main lors d'un jeu de cartes. Bon. Sans sublimation. Il ne devrait pas être content, mais il pleure. Hein. Puisqu'il va rater son jeu. Alors, refoulement, régression, déplacement, isolation. L'isolation, c'est la représentation. L'isolation consiste en quoi? À isoler la représentation de sa charge affective. Genre, on est agressé par une personne très méchante. Elle a un certain visage, une certaine image. On peut isoler ce que cette personne, inspire, la colère, l'angoisse, la peur, les émotions qu'elle va susciter de la personne elle-même. La représentation est alors désaffectisée, l'affect n'est plus lié à la représentation, et l'affect doit trouver une autre issue. Par exemple, le déplacement sur une autre représentation. On n'a plus peur de la personne, par contre, on a peur des souris. Déplacement. Alors, mieux vaut ici par rapport aux souris, vous choisissez les scorpions, les migrants, tout le monde, pas trop. C'est toujours beaucoup plus économique. Alors, l'annulation rétroactive, c'est l'attitude psychique de s'en opposer à un désir refoulé et constituer une réaction contre celle-ci, ou bien négation inversement son contraire, c'est sur laquelle le but d'une pulsion se transforme en son contraire, activité en passivité, oui, stimulation clivage. Clivage, lui, est beaucoup plus radical comme mécanisme de défense. C'est un mécanisme très primitif, considéré comme la défense la plus archaïque, la plus ancienne, donc. Contre l'angoisse, où l'objet visé par les pulsions libidinales et agressives est scindé en un bon objet et un mauvais objet. Il y a donc deux objets dans l'objet de départ, et qui vont avoir des destins totalement indépendants. et s'accompagne d'un clivage corrélatif du moi. Donc la personne va agir de manière différente en fonction de ses contacts avec ce mauvais objet. L'idéalisation, c'est le résultat d'un clivage préalable où les qualités et la valeur du bon objet sont nettement exagérées pour le protéger des pulsions destructrices. Il faut toujours se méfier de ces manœuvres, ces expressions, ces mécanismes de défense d'idéalisation qui peuvent survenir dans toute réaction interpersonnelle tous les jours et également au niveau professionnel où vous avez par exemple un patient ou un client qui vient dans une pharmacie ou cabinet et qui vous dit « Ah, enfin, quelqu'un de compétent qui va pouvoir m'aider. » Est-ce que vous savez les autres ? Voilà, pas grand-chose. Hein. Mais vous, au moins, j'ai vu votre CV sur Internet. Et, waouh, on avait fait des trucs. Hein. Et qui commence avec une idéalisation, vous ne portez plus attention, parce que la chute, non, sur la déni, identification, l'identification constitue par laquelle le sujet assimile un aspect propriétaire d'un attribut de l'autre et se transforme totalement ou partiellement sous l'aide de celui-ci. Cette identification peut être primaire ou secondaire, c'est par exemple certains endroits où les gens vont tous avoir une moustache, par exemple. Ils s'identifient à un patron, un chef, un principal qui aura une moustache. Ou tous avoir, je ne sais pas, une façon hawaïenne, tous avoir une chemise à fleurs. Ça représente quelque chose. On identifie quelque chose. Et l'attribut, que ce soit vestimentaire, que ce soit dans la manière de faire ses soins esthétiques, va signifier éventuellement quelque chose qui peut être de l'ordre d'une identification. Vous avez peut-être parfois vu, quand on interroge des personnes qui vous parlent de psychanalyse, elles ont peut-être un peu comme ça, parfois. Avec une barbe, des attitudes, des choses comme ça. C'est donc une sorte, on pourrait dire, d'identification. Il y a une sorte d'image qui est internalisée, puis qui est vécue, puis qui est rendue. Pas chez tout le monde, bien sûr. C'est pas parce qu'on s'intéresse à une chose qu'on va automatiquement faire ça. Et c'est parce qu'on a une moustache qu'on le fait parce qu'un autre a une moustache, etc. Mais ça peut faire partie d'un processus d'identification, bien évidemment. Alors, projection, alors, vous avez une représentation de Freud, de sa fille là. Freud, de la psychanalyse, donc, Sigmund, nous sommes revenus dans Sigismund Freud, il étudie donc l'inconscient, les pulsions de vie, de mort, le traumatisme infantile refoulé, les trois instants de la personnalité, ça manque sûrement les mécanismes de défense, on vient de les voir. Aujourd'hui, on retrouve des thérapeutes d'orientation psychodynamique qui s'inspirent de la psychanalyse, comme je le disais, une de vos collègues à l'Interpo, autant de Freud, donc, viennent d'Autriche, 1900, donc si tu es pas Freud en 1700. La psychanalyse consistait en des séances de 6 fois semaine, tous les jours sauf le dimanche, pendant une période de 6 mois, dans lesquelles on demandait de ne pas prendre de décisions importantes dans notre vie personnelle, affective, professionnelle, tellement l'investissement pouvait être mobilisant pour l'individu qui le faisait. Aujourd'hui, rien de tout ça, les psychanalyses sont souvent de 3 séances par semaine, et donc sans obligation d'arrêter de travailler et d'avoir 6 mois de congé. On se met en difficulté des stacks aussi de le faire. Alors, il y a des critiques de cette méthode qui est basée sur des études de cas, et ça passe la subjectivité et au biais, qui est difficile à observer et à mesurer. Alors, un autre théoricien important, c'est Adler, le complexe d'infériorité. Alors, Adler, lui, il propose clairement de pouvoir se replonger dans une expérience que tout le monde vit. On commence tous sa vie en étant petit, dépendant des autres. On ne peut pas se passer de l'autre pour pouvoir fonctionner. On ne sait pas attraper quelque chose sur la table parce qu'on ne dépasse pas la taille de la table quand on est petit habituellement. Et c'est la tristesse. Suite à cela, chacun d'entre nous aurait un complexe d'infériorité. Ce complexe d'infériorité serait toujours présent en chacun d'entre nous et nous renverrait à des difficultés, des positions, des approches qui sont un petit peu compliquées. Adler, donc, et son fameux complexe d'infériorité. Alors, Jung, a proposé une notion d'archétype, d'inconscient collectif, d'anima animus. Alors, l'anima animus, c'est le féminin et le masculin qui aurait en tout être. Il veut proposer quelque chose de relativement moderne pour son époque, tout en disant, mais dans le fond,
il y a les hommes, il y a les femmes, et puis il peut y avoir des attitudes ou des pensées qui ne sont pas proprement de l'homme ou de la femme.
Et on verra dans les détracteurs psychanalystes que cette notion même d'homme et de femme est liée à un statut social, le statut de l'homme, qui était le chef et celui qui va diriger les choses. L'anima animus renvoie donc à cette bisexualité du psychisme. Il n'y a pas que du masculin, et c'est quoi le masculin? Il n'y a pas que du féminin, et c'est quoi le féminin? Les archétypes, ce sont ces grandes figures qui vont être partagées les différents individus, au-delà de ce que peut se représenter un individu seul, et qui vont parcourir la culture et les époques pour pouvoir être représentés sous forme, par ces grands langages communs, d'archétypes. L'inconscient collectif serait un inconscient qui ne serait pas juste propre à un individu seul, mais qui serait lié à un groupe d'individus. Il se passerait quelque chose dans cet inconscient collectif.
Alors vous voyez, directement dans cette proposition théorique de Carl Jung, que c'est original, hein, qu'on puisse être de nombreuses personnes à penser à des représentations partagées collectivement, qui seraient quelque part influencées par la culture dans laquelle on vit. J'ai vu quelques conflits ouverts avec les théoriciens de son temps, et puis différentes théories sont revenues à l'avant-plan dans les derniers temps, pour dire ça simplement. Alors, Karen Allais, critique quelque part la théorie freudienne en disant, mais dans le fond, cette histoire de description chez Freud, ouvrez les guillemets, d'envie du pénis, un pénis ne reflétant pas le membre physique, viril, mais bien la fonction, c'est bien la culture qui décide cette fonction. Si la place de l'homme était celle qu'elle est en 1900, elle n'est pas forcément la même chose, la même actuellement, elle n'est pas la même dans toutes les cultures, dans tous les pays, à toutes les époques. Et donc, Karen Horvey, elle suggère qu'il faut bien mettre en contexte ces théories avec la culture dans laquelle elles émergent, et de bien distinguer cette envie de pouvoir, qui n'est pas quelque chose de spécifiquement masculin. Elle propose que chaque individu recherche une certaine sécurité, qui va pousser soit à s'éloigner des autres, à s'opposer aux autres, pour aller vers les autres, avec un mélange savant et étroit. Et elle va proposer donc certaines relectures des autres. Dans d'autres modèles, nous avons la psychologie behavioriste, comportementale. J'ai parlé tout à l'heure de Ivan Pavlov, 1849-1936, qui était un physiologiste russe, qui essaie d'étudier la physiologie du chien, et en particulier la salivation sur la digestion. Il a découvert par hasard quelque chose d'autre, c'est-à-dire que les chiens allaient saliver sans que la nourriture ne soit présente, et simplement au fait de la voir, de savoir qu'elle allait arriver. On appelait ça le conditionnement classique, on verra que c'était un des fondateurs, des pionniers du comportementalisme et donc de l'apprentissage. Comment est-ce que ça fonctionne, son affaire? Si vous montrez de la nourriture à un chien, stimulus inconditionnel, il va saliver. Alors, vous pouvez faire sonner une cloche, il ne va pas répondre, puisque la cloche ne se mange pas, même si c'est une cloche pour protéger les chiens, ça complique l'affaire. Hein. Voilà. Si vous faites sonner cette cloche à vous présenter la nourriture, vous allez avoir là, un conditionnement, entre un conditionné et l'animal. Et puis ensuite, il vous suffit de conditionner, de faire aller le stimulus dit conditionné, qui va rappeler à l'animal que la nourriture ne va pas tarder. Et bien sûr, si vous le faites des milliers de fois sans jamais augmenter la nourriture, il va y avoir une extinction de l'effet de tout ça dans les cours sur l'apprentissage et le conditionnement.
D'autres théoriciens, comme le psychologue comportementaliste Skinner, qui lui croyait le confère au renforcement, qui était nécessaire pour que un sujet, une personne reste motivée à achever ses tâches. Il a proposé le terme de conditionnement opérant, qui est basé sur une théorie des renforcements positifs et négatifs qui vont modifier, modeler les comportements. Nous reverrons ça aussi dans cette psychologie cognitive dont un des représentants est un Chomsky, qui l'a appliqué au langage. Les processus mentaux vont refléter ces cognitions avec l'acquisition, le traitement, le stockage et l'utilisation de l'information. Les psychologues cognitivistes vont retourner à l'étude de l'apprentissage, de la mémoire, de la perception, du langage, autant de chapitres de l'étymologie générale, et au développement et aussi aux résolutions de problèmes. Alors, on ne se situe plus les 50, le monde des ordinateurs à ce moment-là, qui vont proposer un nouveau modèle de pensée pour l'esprit. Répétons et résumons. La psychologie comportementale et cognitive. Nous avons deux choses, d'abord comportementale et puis cognitive. Première et deuxième vague dans les théories cognitives et comportementales. Comportementale et cognitive. Elle provient du behaviorisme et de la psychologie cognitive. Elle met l'accent sur l'acquisition de comportements et de croyances. Ce que l'on croit, ce que l'on peut agir. Nous avons vu des théoriciens du behaviorisme étaient Watson et Skinner. J'ai cité différentes choses les concernant. Les comportements observables et mesurables, apprentissage et conditionnement sont importants. Et puis, c'est la théorie du stimulus et de la réponse. Ça va, vous suivez, là? Parlez pas trop, vous n'êtes pas trop fatigué. Si vous êtes fatigué, imaginez, vous avez ce vendredi après-midi sur ce. Alors, psychologie cognitive, Bandura, Albert Bandura. Les cognitions, interprétation, perception, souvenir, croyance, théorie sociale et cognitive, la transmission de comportement et des valeurs par l'observation et le conditionnement. C'est très important, nous verrons ça en détail. Alors, il y a une critique, c'est senior, les aspects inconscients et émotifs de la personnalité. Psychologie humaniste, Carl Rogers et Maslow, qui met l'accent sur le libre arbitre, les émotions, la conscience de soi. C'est un courant extrêmement populaire, qui n'est pas du tout nouveau, mais qui va parler, entre autres, de l'actualisation de soi. Il y aurait une tendance innée chez l'individu à arriver, à accomplir son potentiel, à exprimer ses talents. Et l'aspect extrêmement bienveillant des thérapeutes rogériens, comme on les appelle, Carl Roger, c'est de pouvoir imaginer que l'individu a toutes les ressources en lui. Et donc c'est aborder l'autre avec une extrême bienveillance, avec le moyen de pouvoir révéler ces aspects positifs qu'il a en lui, par définition. Il y a donc une considération positive inconditionnelle, une reconnaissance de la valeur d'une personne sans condition imposée. C'est extrêmement important. Vous n'êtes pas comme quelqu'un d'incapable en disant « j'ai une faiblesse et une incapacité, aidez-moi, comblez-moi la peine ». La relation est différente. Pourtant, Rogers appelle ses patients des clients. Alors, soi, c'est le concept central de la personnalité lié aux perceptions de la personne elle-même, différentes critiques, les difficiles à tester. Une notion importante, c'est cette notion de congruence et d'incongruence. La congruence étant le reflet d'une personne qui est dite bien équilibrée, un accord entre le concept de soi et l'expérience vécue, et l'incongruence étant ce désaccord, ce déséquilibre qu'il y a entre le concept de soi et l'expérience. Différentes caractéristiques liées à la réalisation de soi. choix, personne perçoit clairement la réalité, peuvent s'accommoder de l'incertitude. Personne s'accepte elle-même et accepte les autres comme ils sont, son comportement spontané, motivé par le désir d'être elle-même. Toute une série de caractéristiques qui seront certainement atteintes par chacun d'entre vous prochainement. Sens de l'humour spontané, dénué de malice, créatrice, etc. D'autres courants de pensée concernent aussi l'approche systémique, interactionnelle. Alors, les représentants ici sont Bateson, Jackson et Vaslavic. Ils s'inspirent de plusieurs approches théoriques, qu'on soit l'humain comme un élément influencé par plusieurs systèmes. Donc, par exemple, ce n'est plus de considérer l'humain comme un individu isolé, seul, quelque part, mais comme un système, un réseau, une famille. D'où les tenants de ces courants vont s'intéresser à une approche familiale, une approche liée aux organisations. Et il est important de se rappeler qu'un individu n'est jamais seul. Il est toujours entouré d'autres personnes, dans une famille nucléaire, une famille plus élargie, une communauté, un groupe religieux. Un individu n'est pas seul. Donc, se poser la question d'un système, d'un fonctionnement, d'interaction apparaît extrêmement important. Donc le tout est plus que la somme des parties, mais est déterminé par chacune d'elles. Alors, il y a bien sûr cette notion de prophétie autorisatrice, d'attente positive ou négative face à un événement qui influence le comportement d'un individu, augmentant par le fait même les probabilités qu'il se réalise, qui est bien connu des enseignants. Si on considère une personne comme étant incapable et qu'on lui reflète d'une certaine manière, elle va peu à peu se considérer comme incapable et avoir de moins d'audace. Et il y a des enquêtes qui peuvent être faites, des études, des expérimentations qui peuvent être faites en considérant qu'une partie d'une classe est capable, une autre partie n'est pas capable, et en travaillant sur le jugement social. Ce jugement où il va y avoir une autorisation de ce qu'on pense ou pas. Au fur et à mesure, ces attentes vont modeler le comportement et l'attitude des personnes. Alors, cette théorie accorde trop d'importance à la famille au détriment des autres systèmes. Bon, voilà. Pour vous dire que chaque théorie peut avoir des problèmes, et c'est l'utilisation de ces différentes théories qui permet de pouvoir les utiliser à bon escient. Alors, il y a un déterminisme réciproque, il y a un déterminisme réciproque de Van Buren avec l'interaction entre pensée, l'environnement et différents comportements. Julien Rotter a lu le contrôle, c'est aussi une théorie importante à connaître, le lutte contrôle interne et externe. Quand le lutte contrôle est interne, la personne a la capacité de pouvoir gérer ce qui lui arrive. Elle ne va pas être dépendante de l'extérieur comme dans le cas d'un lutte contrôle interne, ou lorsque le repère externe, ou dans ce cas-là, quand un repère externe disparaît, la personne se trouve désemparée. Max Wertheimer et le gestaltisme montrant ici, comme dans la systémique, que le tout vaut plus que chacune de ses parties. Si vous avez des petites taches noires, mais si vous voyez bien, vous avez un cube, de Necker avec une instabilité tridimensionnelle. Vous pouvez regarder ici, ici, et le voir en avant ou en arrière systématiquement. Vous avez bien sûr l'approche psychobiologique de Milner et de Hebb, avec, on verra particulièrement en sciences biomédicales dans le domaine de neurosciences, les aspects de fonctionnement synaptique et de plasticité dite hebbienne. Alors, tout comportement et toute cognition prend sa source dans le système nerveux. On va donc avoir un chapitre entier consacré à l'étude du système nerveux et dans ses dimensions liées à la psychologie. L'étude de l'influence de la biologie sur les comportements et les processus mentaux. Il s'agit de structures cérébrales, de neurotransmetteurs de jeu. Alors, il est difficile de distinguer la part de l'inné et la part de l'actu là-dedans, c'est une critique. Alors, ici, vous voyez la timidité et l'hérédité avec des facteurs génétiques importants, des facteurs environnementaux, partagés, communs, différents degrés d'erreur. modèle biopsychosocial, je vous ai tout à l'heure parlé de ce modèle proposé par Engel, et qui propose donc des interactions de facteurs biologiques, psychologiques et sociaux, mais surtout un pied d'égalité dans ces trois dimensions. Alors, il y aurait un certain éclectisme, capacité de choisir les éléments d'explication adéquats parmi ces différentes approches, qui est important pour ne pas se retrouver muré dans une approche qui consisterait à calquer l'approche d'orientation et la faire devenir une réalité. Il n'y a pas plus de réalité à un modèle qu'un autre. La critique, notamment, c'est l'application ardue de ce modèle biopsychosocial qui exige des connaissances étendues de tous les facteurs. Nous avons vu donc différents modèles, l'analytique behaviorale, humaniste, cognitive, biologique, évolutionniste, structurelle et critique, avec différents représentants que nous aurons l'occasion de revoir par la suite. Résumé. Chez les jumeaux, avec l'expérience. Si, alors, sachez repasser dans l'échelle différents penseurs pour ne pas proposer des choses qui sont tout à fait anachroniques, que votre culture générale soit un petit peu plus élevée. Quoi. C'était un des buts de la transition de la psychologie, de la psychologie, au début du cours. On commencera le cours prochain en parlant des pseudo-tests de personnalité. Est-ce que vous avez des questions pour aujourd'hui ?